This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
محليا راديو روزانا في باريس.
Mando na rádio Globo.
From CNN Radio 7.
Na rádio Dacha.
O Brasil quer se quinta.
Turquia, Fotoro,
Slava, Россия.
Rebonsoir et bienvenue. Un jour dans le monde, aujourd'hui en Inde, dans le partout ailleurs d'Éric Valmire. Retour en Afghanistan, retour au dossier des traducteurs afghans de l'armée française, l'armée partie. Ils doivent désormais se terrer de peur des représailles. La France leur accordera-t-elle des visas ? Vanessa Descoureau revient tout à l'heure avec de nouvelles informations. Nous reviendrons également en Sicile, où Sandy Dauphin a pu rencontrer et interroger Mamadou Diallo. Il a 17 ans, c'est un migrant venu de Guinée-Conakry. Il a traversé la Méditerranée au péril de sa vie, mais il a l'esprit encore plein de rêves et plein d'espoir, vous le verrez. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger sur ces Occidentaux condamnés à mort en Indonésie. Comment en est-on arrivé à pareille situation ? Analyse en fin d'émission. Mais tout de suite, la Grèce, Bruxelles, l'Allemagne.
France Inter, un jour dans le monde. Nicolas Demorand.
L'Eurogroupe se réunit demain en sommet à Riga, en Lettonie, avec sur la table une nouvelle fois le dossier grec. Alors il faut noter pour une fois que ce sommet ne donne pas lieu à la dramatisation habituelle sur le thème « rencontre de la dernière chance, la Grèce le dos au mur » ou encore « la négociation ou le chaos ». Pour une fois aussi, les rumeurs ne courent pas sur une possible démission ou un possible débarquement du ministre grec des Finances Varoufakis, pas plus que sur le scénario noir du Brexit, soit la sortie de la Grèce de la zone euro. Alors profitons donc de ce temps relativement calme pour réfléchir à la manière dont nous, journalistes, travaillons sur ce pays, sur cette situation inédite, de manière neutre, de manière militante, de manière biaisée. Et si biaisée, de quel biais s'agit-il ? Nous allons poser la question à Angélique Kourounis, correspondante de France Inter à Athènes, qui sera avec nous dans quelques minutes par téléphone, à Pierre Benazé, que je salue. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Nicolas.
Vous êtes membre du bureau bruxellois de Radio France et ici en studio, Stéphane Simons, correspondant du Spiegel Online, le site internet du magazine. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors première question avant d'entrer dans les détails et dans les soutes de notre travail de journaliste sur la Grèce. Êtes-vous au moins tous d'accord sur le fait que la Grèce est devenue un sujet journalistique extrêmement particulier depuis l'élection d'Alexis Tsipras? Pierre Benazé, pour commencer.
Parfaitement d'accord. Je vous dirais même que c'est devenu un sujet journalistique extrêmement particulier, spécifiquement pour les journalistes qui sont à Bruxelles, depuis la faillite de Lehman Brothers, depuis les premières opérations de sauvetage de la Grèce qu'il a fallu concocter dans la nuit avec des sommets européens qui duraient jusqu'à 8 heures du matin, des vendredis soirs et des week-ends pour agir avant les marchés. On a parlé que de la Grèce pendant des années ici, et depuis que le Syriza a formé la coalition gouvernementale, c'est effectivement devenu un ovni politique européen, et on ne parle que de ça, à nouveau, j'allais dire.
Syriza ovniesque, du côté de chez vous.
Oui, ovniesque parce que les Européens ont eu peur, certains le craignent encore, mais un peu moins maintenant, que le nouveau gouvernement grec remette en cause la totalité des engagements pris depuis l'éclatement de la crise. Or, pour les Européens qui eux-mêmes avaient de gros problèmes économiques au moment où ils ont dû aider la Grèce par deux fois, il était un peu hors de question qu'un gouvernement, quel qu'il soit, remette en cause ce que les gouvernements précédents avaient décidé. Pour eux, un gouvernement décide au nom du pays et pas au nom du gouvernement.
Même question pour vous, monsieur Stéphane Simons du Spiegel Online. La Grèce, objet journalistique particulier, voire rêvé ?
Ben tout à fait, parce que au lendemain de l'élection de Syriza, en Allemagne, je crois qu'on a regardé ce ovni politique d'une façon différente, parce que voilà, il y a eu un changement de culture politique. Hein. La façon qu'ils se sont présentés, Varoufakis et Tsipras, ça a quand même laissé une impression qu'il s'agissait d'une autre façon de faire la politique. Et puis eux, surfant sur leur succès électoral, quand même ont projeté l'image, comme dirait notre collègue à Bruxelles, qu'ils n'allaient pas suivre les engagements pris. Alors ça, en Allemagne, où quand même on se tient à cette règle, acta sunt Servanda. Donc, un gouvernement automatiquement reprend les obligations du précédent était quand même prévu comme quelque chose de dramatique. Alors, de là, je crois qu'on traite la Grèce aujourd'hui d'une façon presque exotique.
C'est assez étonnant pour un pays avec lequel nous avons monnaie commune, pour un pays qui est quand même pas très très loin de nous. Mais exotique, c'est un terme intéressant. OVNI, disait Pierre Benassé. Je reviens vers vous, Pierre. Comment Bruxelles a reçu, vous y avez fait allusion, mais revenons-y en détail maintenant, le fait qu'un homme politique, de gauche en l'occurrence, ait été élu sur un programme qui consistait précisément à dire « nous ferons rupture avec les engagements pris par nos prédécesseurs ». Donc, qui a fait une campagne sur quelque chose qui ne se fait pas, entre guillemets, en droit international ou disons dans les relations entre partenaires habituels. Pierre Benassé, nous avons eu un problème de liaison avec Pierre, nous allons y retourner à Bruxelles. Je pense qu'on va retrouver Pierre Benassé. Très, très rapidement. Oui, alors je passe avec vous, Stéphane, sur cette question précisément de faire campagne sur le non-respect de ce qui a été engagé par les prédécesseurs.
Ben, vous l'avez bien dit, ils ont fait campagne. Alors, il y a quand même, on se dit quand même, entre campagne et la politique actuelle, il y a toujours une grosse différence. On se rappelle qu'en France, il y a eu pas mal de politiques qui ont fait campagne sur le sujet, sur le thème rupture. Après, on se dit toujours, mais ils vont mettre un peu de vin dans un peu de l'eau dans leur vin, et arrivés au pouvoir, ils seront quand même obligés à suivre les règles établies. Et en Allemagne et à Berlin, certainement, on a pensé de la même façon, sauf que la rhétorique, c'était pas, on a découvert que c'était pas seulement rhétorique, mais qu'il y avait quand même un fond de résistance vis-à-vis de la responsabilité prise par le gouvernement antérieur, et que Varoufakis et Tsipras ont quand même donné l'impression comme quoi ils avaient dévié de cette règle et de ces traditions convenues.
Angélique Courouni, c'est avec nous. Bonjour Angélique.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes la correspondante de Radio France à Athènes. La première question que je posais à vos confrères, Pierre Benassé et Stéphane Simons, était de savoir si la Grèce était vraiment, depuis Tsipras, un objet journalistique particulier. Alors vous qui vivez là-bas, j'aimerais bien vous entendre sur le sujet.
C'est-à-dire que en tant que correspondante et en tant que journaliste, on a un peu l'impression que on peut pas traiter ce qui se passe en Grèce avec la même facilité, le même dégagement que l'on traite les autres, avec lequel on traite les autres sujets, parce que si on explique les positions du gouvernement grec qui sont en opposition totale avec la ligne actuelle libérale de l'Eurogroupe et de l'ensemble de l'Europe économique, eh bien on est très 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 facilement considéré comme quelqu'un qui prend parti. Donc la difficulté, elle est là. Maintenant, ça fait 5 ans que la Grèce occupe le devant de la scène, à cause de la crise, à cause des initiatives qui sont prises, à cause des néo-nazis qui sont au Parlement. Donc la Grèce occupe le devant de la scène, mais la problématique, c'est que nous, qui journalistes qui vivons de l'intérieur, avons un peu le sentiment qu'on répète les clichés sans vraiment aller voir ce qui se passe, sans vraiment voir les enjeux, les tenants, les aboutissants de la situation et du bras de fer actuel entre Athènes et l'Eurogroupe.
J'aimerais, Angélique, avant de faire circuler la parole, vous interroger sur la question, j'imagine que ce mot, vous avez dû l'entendre 50 fois, voire 500 fois, voire 5000 fois, de reniement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans le traitement journalistique de la Grèce, tout le monde attend le moment où Tsipras et son gouvernement vont se renier par rapport au programme défendu dans la campagne?
Je pense qu'ils peuvent attendre longtemps, parce que ce n'est pas quelque chose qui, au moment où je vous parle, est à l'ordre du jour. Et s'il avait été question d'un reniement quelconque, il aurait eu lieu beaucoup plus tôt, où le pays aurait obtenu les faveurs d'une presse acquise aux thèses de l'Eurogroupe et des créanciers de la Grèce. et ça aurait fait gagner du temps à beaucoup de monde. Le problème actuel, le bras de fer actuel qui a lieu depuis le 20 février dernier, c'est que justement Alexis Tsipras et son équipe essayent de résoudre la quadrature du cercle, c'est-à-dire respecter les engagements européens de la Grèce, mais en même temps respecter ses engagements électoraux, ce pourquoi il a été élu et ce pourquoi il est encore soutenu par une grande majorité des Grecs qui dépasse de très loin ceux qui l'ont élu. Je rappelle que Tsipras a été élu avec 36% des voix et qu'actuellement, au dernier sondage, même s'il y a une très nette baisse, il est toujours soutenu par 43% des Grecs.
Mais Angélique, donc, Angélique, vous dites bien qu'il y a une certaine presse qui défend les intérêts de l'Union européenne, de la Troïka et des institutions internationales.
Je vais reformuler ma phrase qui était maladroite et je m'en excuse. Je dirais qu'il y a une grande partie de la presse qui ne va pas chercher au fond ce qui se passe actuellement en Grèce et qui ne va pas et qui ne dépasse pas les communiqués qui sont donnés par les différents bureaux de presse à Bruxelles. Et je donnerai un exemple. L'idée qui est défendue et qui domine actuellement est que la Grèce ne fait rien, elle perd son temps et qu'elle ne propose pas de réforme. Il n'y a rien de plus faux, la Grèce a proposé 5 listes de réformes, les unes plus détaillées que les autres. La problématique de la Grèce est de dire on veut sortir de l'austérité, mais pas avec les mesures d'austérité que vous nous imposez. On ne veut pas baisser les salaires, on ne veut pas augmenter la TVA, on ne veut pas autoriser les licenciements groupés. C'est les lignes rouges que le gouvernement s'est posées. Et si le gouvernement doit revenir sur ces lignes rouges, ce n'est pas impossible, il demandera à nouveau à ce moment-là que le peuple grec se reprononce, soit par des élections anticipées, soit par un référendum.
Oui.
Et il y a très très peu de journalistes qui creusent dans ce sens-là. C'est tellement plus facile, plus simple de dire que les Grecs font rien et qu'ils font perdre le temps et qu'ils veulent de l'argent et que c'est un puits sans fond.
Pierre Bénazé à Bruxelles, comment recevez-vous ce que vient de dire notre consoeur et collègue Angélique Kourouni sur ce qui émane de Bruxelles?
Pour tout vous dire, c'est une question de journaliste. À partir du moment où vous êtes quelque part, vous avez les sources qui viennent vers vous de l'endroit où vous êtes. Moi, il se trouve que les sources avec lesquelles je parle sont plutôt plus européennes que grecques. Finalement, les Grecs sont minoritaires, ils sont que 1 sur 28. Moi, ce que j'entends actuellement, c'est que par exemple, il y a cet Eurogroupe qui se tient à Riga qui devait être décisionnel initialement. Et ce que les Européens semblent reprocher aux Grecs, justement, pour l'instant, c'est de n'être qu'au stade des listes, qu'en fait, les lignes rouges, finalement, que le gouvernement de M. Tsipras ne veut pas dépasser, c'est tout à son honneur, et je pense que les 27 autres pays de l'Union européenne les reconnaissent et estiment qu'elles sont légitimes, puisque ce gouvernement a été légitimement élu. Je pense que ce qu'ils leur reprochent, c'est que ces lignes rouges, elles étaient connues dès la campagne, et qu'un gouvernement qui entre en fonction, d'habitude, dans l'Union européenne, a déjà préparé son travail, c'est-à-dire est capable d'arriver avec autre chose que juste des listes, même détaillées, est capable d'arriver avec ce que les Européens attendent actuellement, c'est-à-dire qu'on sorte de cette période des listes, qui dure déjà depuis un certain nombre de semaines, voire de mois maintenant, et qui donne des chiffres, des impacts, des effets budgétaires, des effets fiscaux, des effets financiers, un travail de fond que certains pays se targuent de faire très bien, comme par exemple, étonnamment, la France actuellement, et qu'on sorte, si vous voulez, de la négociation idéologique. Pour eux, la négociation idéologique, ils ont eu beaucoup de craintes pendant la campagne sur cette remise en cause dont on parlait tout à l'heure des engagements précédents. Ces craintes, ils les ont plus. Ils estiment juste que maintenant, il faut passer au-delà de l'idéologie et des lignes rouges. Une fois que les lignes rouges sont connues, il n'y a plus qu'à mettre en place un programme qui corresponde à ces lignes rouges, mais qu'au moins le programme soit net. Apparemment, en tout cas, c'est ce qu'on en dit ici.
Ouais, alors, je vais le reformuler comme ça, comme on disait en France il y a longtemps. D'où tu parles, Stéphane Simons? C'est très très important. Angélique Kourouni disait « Depuis la Grèce, on voit ça ». Pierre Bénazé dit « Depuis Bruxelles, on voit ça ». Quand on est journaliste allemand correspondant à Paris, correspondant du Spiegel Online, est-ce que vous arrivez en imbibé par votre culture nationale ou est-ce que vous parvenez à faire écran et à regarder la Grèce comme un objet journalistique, certes exotique, mais comme un autre?
J'essaie quand même de me tenir à équidistance et étant, même pas géographiquement, mais quand même politiquement à équidistance entre Bruxelles et Athènes. Et en tant qu'observateur allemand, ça me donne un peu la facilité d'en parler. Et je crois qu'Angélique a mis la main sur le problème en disant que le gouvernement grec essaye de faire la quadrature du cercle. Pierre Benazé disait la même chose, c'est-à-dire il y a les lignes rouges qui seront à mettre en fonction avec la réalité économique. C'est ce qui veut dire que plus tard ou plus tôt, les Grecs seront obligés de faire marche arrière sur les promesses. Les promesses étaient une chose. Si on regarde c'est ce qui se passe à les demandes européennes seulement par le spectre d'un prisme idéologique et on caractérise ça comme une europolitique libérale, je crois que c'est un peu une façon de faciliter parce que là, c'est un peu le même genre de cliché que Angélica évoquait vis-à-vis de la vision peut-être émanant de Bruxelles.
Mais vous dites que les Grecs seront obligés de revenir sur un certain nombre des promesses qui ont été faites pendant la campagne électorale.
À un moment donné, il faudrait payer. Et pour cela, ils seront obligés soit à réduire les promesses, ce qu'ils ont fait vis-à-vis de leur propre populace, ou alors, c'est ce qu'on parle déjà maintenant, on va se relancer en un troisième essai d'un plan de sauvetage pour la Grèce.
Et j'imagine qu'Angélique Kourounis doit être en train de bondir sur son siège à Athènes. Angélique, c'est le cas ou je me trompe ?
Non, enfin, de remarques de mes collègues, ça me fait sourire.
Ah ben voilà, vous souriez.
Il n'a jamais été question de ne pas payer. Il a été question de trouver différemment l'argent. Et ça, on ne veut pas l'entendre. Elle est là, la différence. La différence, c'est que le gouvernement grec a décidé, parce qu'il a été élu sur un programme d'anti-austérité, de ne pas baisser à nouveau les salaires et les retraites, mais il a dit qu'il allait trouver l'argent en livrant une réelle réforme fiscale de la justice et de l'administration et en menant une réelle bataille contre la fraude fiscale, ce qui n'a pas été fait par le gouvernement précédent. Il est très étonnant que d'ailleurs l'Eurogroupe et les ministres concernés n'ont pas relevé que le gouvernement précédent et toutes les équipes précédentes d'ailleurs n'ont pas fait une vraie réforme fiscale. Hier a été mis en prison pour la première fois le fils d'un des plus grands manias de la presse, Bourbolas. Il a été déféré devant le procureur, il a été relâché par la promesse qu'il allait enfin payer les amendes et on parle de plusieurs millions d'euros. Ce n'est qu'un début. La vraie bataille, elle est là. Ce n'est pas de ne pas payer les créanciers, c'est deux choses. C'est d'indexer le remboursement de la dette pour les créanciers sur la croissance du pays, ce qui ferait que les créanciers seraient intéressés à une vraie croissance du pays. Et d'autre part, il faut trouver l'argent là où il est, chez les fraudeurs, et pas par comme on le fait depuis maintenant 5 ans, en réduisant les salaires et les retraites et en déstructurant l'État social. Mais ça, on ne veut pas l'entendre. C'est plus facile de dire, les Grecs vont être obligés de payer, donc ils vont être obligés de revenir sur leurs promesses électorales.
Oui, alors on vous a bien entendu, si j'ose dire, parce que la ligne n'est pas très très bonne. Essayez de rester stable, hein, de ne pas bouger, Angélique. Je ne sais pas où vous vous trouvez dans Athènes, mais pour la qualité de la liaison, c'est mieux. Une question commune à tous les trois, Pierre Benazé, quand on est plongé dans les institutions européennes, dans leur fonctionnement quotidien, vous l'avez dit, pour vous, la Grèce, c'est un sujet depuis Lehman Brothers. Donc le fonctionnement quotidien des institutions, c'est extrêmement important. Est-ce que vous parvenez à vous abstraire de ça, Pierre Benazé, et de vous dire, bon, il y a la Grèce, c'est un pays qui entend se prendre de plein fouet les institutions européennes et les mettre éventuellement face à leurs contradictions, face à leurs impensées. Est-ce que ça, vous l'acceptez ou vous vous dites, ce sont juste une bande de tarés ?
Non, ça paraît parfaitement légitime. Le projet européen n'est pas légitime en soi juste parce qu'il existe. Le simple fait d'exister n'est pas une justification. Ça doit tous les jours être remis en cause. Et si personne ne le remet en cause, on finit par s'endormir et plus avoir aucun projet intéressant. Et c'est probablement d'ailleurs une des raisons de la désaffection des électeurs pour la chose européenne partout en Europe. Si on est dans un train qui avance sur des rails sans que jamais personne se demande où ce train se dirige, évidemment, on va probablement dans le mur plus qu'ailleurs. Alors, les Grecs remettent en cause le fonctionnement de la chose européenne. Ils ne sont pas les seuls, mais c'est le gouvernement probablement actuellement qui le fait de la manière la plus caractéristique et pas seulement
au fond de vous-même, Pierre Benazé, vous pensez que l'Union européenne sera plus forte?
Oui, moi, enfin, déjà en tant que journaliste français à Bruxelles, je suis assez content de ce genre de situation, pour tout vous dire, parce que ça remue un peu les choses. Ça sort les institutions européennes de leur ronronnement. Donc on se pose véritablement des questions. Et oui, on peut imaginer que les politiques mises en avant par Syriza, par Tsipras et Varoufakis changent un petit peu les modes de fonctionnement, même si évidemment, depuis les premiers Eurogroupes après la victoire de Syriza, le gouvernement grec a dû mettre beaucoup d'eau dans son vin.
Ouais, même question à Stéphane Simon. Ce que je vais préciser quand même, vous êtes allemand. Est-ce que vous êtes travaillé par les grandes options économiques de votre pays, la rigueur dans la gestion des comptes publics, la chasse à la dette et au déficit? Est-ce que tout cela façonne votre œil et tient votre plume quand vous écrivez pour votre média?
Je crois que ce sera malhonnête de dire qu'on ne peut pas s'en soustraire tout en faisant quand même la différence entre la déontologie journalistique, où on essaie quand même de faire une différence entre l'opinion personnelle et c'est ce qu'on écrit. Mais c'est vrai, même quand j'écris sur la France, je suis imbibé de cette tradition allemande. Mais ceci pour dire que si je regarde la Grèce, je voulais pas créer l'impression que je supporte l'austérité à fond, qui est souvent projetée par la chancelière. Je crois au fait que Berlin a fait une grande erreur de pas mutualiser le problème beaucoup plus tôt. On serait sorti avec autant de difficultés financières, mais avec l'avantage de résoudre le problème beaucoup plus tôt.
Une mutualisation des dettes, comme il en avait été question, qui aurait permis non seulement de faire de l'économie, mais surtout de faire de la politique en Europe, ce qui arrive quand même assez rarement. Angélique Kourounis, même question pour vous. Est-il possible ou difficile que la citoyenne grecque disparaisse derrière la journaliste? Comment ça se passe là en vous?
Comment ça se passe? C'est une bonne question. Non, je pense que je suis avant tout journaliste. j'essaye. Sinon, c'est pas la peine. Sinon, je vais vendre des souvlaques. Je fais un autre métier. Mais c'est vrai, ce qui est extrêmement agaçant, et là, je ne pense pas que c'est la grecque qui réagit, c'est extrêmement agaçant de voir des clichés reproduits par toute une partie de la presse qui trouve beaucoup plus facile de travailler avec la méthode qui est on vient en Grèce vérifier ce que l'on fait, les images que l'on a, et les images qui sont recyclées. Ce que je veux, c'est que les gens viennent voir et aillent au fond des choses et dépassent les clichés qui circulent. Encore une fois, la Grèce n'a pas dit qu'elle ne va pas payer, la Grèce a dit qu'elle va trouver des moyens différents de payer. La Grèce n'a pas dit qu'elle ne veut pas respecter ses engagements. La Grèce dit que l'Europe va dans... En tout cas, le gouvernement grec dit que c'est ce que disait le collègue allemand. L'Eurogroupe et l'Europe ont pris des directions qui sont totalement différentes, qui ne marchent pas, et on va essayer autre chose. C'est ce que disent les Grecs.
Ouais.
L'idée, c'est qu'on n'a pas envie d'écouter ce discours, et donc on préfère biaiser. C'est ça qui est particulièrement agaçant. Mais je serais correspondante au Zimbabwe, j'aurais la même réaction. Ce qu'on écrit ne correspond pas à la réalité. C'est un peu ça.
Allez, merci à tous les trois. Merci Angélique Kourounis, correspondante de Radio France à Athènes, Pierre Benazé, membre du bureau bruxellois de Radio France, et Stéphane Simons, le correspondant du Spiegel Online à Paris. Le sommet de l'Eurogroupe de Riga, c'est donc demain. J'espère que ce débat vous aura donné quelques clés pour lire les comptes rendus qui en seront faits. Merci encore. Il est 18h40. Vous écoutez France Inter. À suivre, les traducteurs afghans de l'armée française. Le dossier avance, vous le verrez. C'est un jour dans le monde avec The District.
Un jour dans le monde sur France Inter.
Voilà une respiration, comme on dit, avec The Districts, 18h42.
Un jour dans le monde, sur France Inter.
Lundi dernier, nous évoquions dans l'émission l'avenir incertain des traducteurs afghans abandonnés par la France depuis le retrait des troupes occidentales d'Afghanistan. Ces auxiliaires de l'armée française sont pour beaucoup d'entre eux menacés par les talibans, mais ce n'est a priori pas une raison suffisante pour que Paris leur accorde des visas. Vanessa Descoureaux, bonsoir.
Bonsoir.
C'est vous qui avez évoqué cette histoire en début de semaine et il faut croire que le bruit médiatique peut parfois faire avancer modestement les choses.
Alors ce n'est qu'un très léger mouvement, mais la semaine prochaine, la date ce n'est pas encore précisée, mais c'est sûr, la semaine prochaine, une délégation qui va représenter le Quai d'Orsay et le ministère de la Défense se rendra à Kaboul. Un chef de mission sera aussitôt nommé. On ne sait pas encore si ce sera un diplomate ou un militaire, puisque cette mission est donc conjointe, mais ce qu'on peut dire, c'est que selon les différents témoignages qu'on a recueillis auprès des militaires, ce n'est pas forcément ce qu'on pense, ce n'est pas forcément au ministère de la Défense que le dossier piétine. On peut évoquer notamment des officiers qui ont servi aux côtés de ces traducteurs, qui ont fait des lettres de recommandation. Certains se sont même engagés à accueillir leurs anciens traducteurs à la maison. Mais la délivrance des visas pour services rendus à la France implique tellement de services, tellement de ministères, que la pertinence ne semble décidément pas la norme dans cette affaire.
Cela dit, il y a un tout nouveau calendrier. Laurent Fabius a hier fait savoir que ces services se donnaient jusqu'à l'été pour examiner, Vanessa, les demandes des visas.
Y compris les demandes qui ont été rejetées une toute première fois. Ces demandes seront, j'ouvre les guillemets, examinées en fonction de la menace qui pèse sur ces civils qui ont travaillé pour la France, je ferme les guillemets. Sous-entendu, donc, la menace n'étant pas aussi pesante pour tous, alors n'est donc que les personnes les plus en danger. Et là encore, ça pose quand même un sérieux problème de morale quand on entend une voix proche de l'armée reconnaître que c'est vrai, les traducteurs qui veulent venir en France y ont toute leur place car ils ont risqué leur vie, eux, mais cette même voix se demande dans la foulée, par exemple un cuisinier, lui, qui a travaillé pour nous, pour l'armée française, eh bien, quel risque a-t-il pris? Eh bien là encore, ce sont deux mondes qui se télescopent, le terrain et la bureaucratie, car cet interlocuteur ne sait certainement pas qu'un cuisinier, lui aussi, pour avoir travaillé, pour avoir servi, pour avoir aidé une armée étrangère, ne peut être lui aussi menacé par les talibans, que les djihadistes ne regardent pas le CV d'une victime potentielle. Elles regardent une seule chose, si la victime potentielle a travaillé pour eux ou pour leurs ennemis. Pour finir, on va peut-être quand même rappeler les chiffres pour savoir de quoi on parle, pour montrer qu'ils ne sont pas massifs. Sur les 700 civils qui ont travaillé aux côtés des militaires français, 258 ont fait des demandes de visa, 73 dossiers ont été acceptés.
Vanessa Descoureaux, merci. Nous suivrons avec vous le dossier comme le lait sur le feu. 18h45. Et c'est partout ailleurs. Bonsoir Eric Valmire.
Bonsoir Nicolas.
L'Inde ce soir.
Oui, avec un suicide d'agriculteur hier en Inde, encore une fois, serais-je tenté de dire. Le monde paysan qui avait massivement voté pour Narendra Modi il y a 10 mois se détourne aujourd'hui du Premier ministre en cause l'expropriation des terres agricoles pour développer des sites industriels. Modi mise en effet sur l'industrie pour développer l'économie du pays. Il se détourne des ressources agricoles. Il veut construire des nouvelles villes, des usines, des couloirs industriels, des routes. Et pour lui, le soutien manufacturier particulier passe par l'acquisition de terrains. Les industries ne peuvent pas naître autrement. Et le gouvernement profite surtout d'une saison de pluie torrentielle qui ont détruit les exploitations et affaibli les paysans. L'opposition de gauche retrouve des couleurs, monte au créneau. Avec le puissant lobby agricole, le développement de l'Inde ne doit pas se faire au détriment des pauvres. Narendra Modi se trouve aujourd'hui très critiqué pour les divisions qu'il génère dans le pays. Ruraux contre urbains, hindouistes contre musulmans. Et puis je ne sais pas si vous vous souvenez Nicolas, mais l'an dernier, pendant la campagne électorale, les reportages des chaînes occidentales avaient dressé un portrait désastreux du candidat Modi. Un nationaliste sanguinaire, on lui imputait la responsabilité du massacre de 1200 musulmans quand il était gouverneur du Gujarat en 2002. Des émeutes communautaires qui avaient jeté sur les routes de l'exil au moins 150 000 personnes. Une instruction judiciaire avait même été ouverte par un tribunal américain. Et Narendra Modi s'était vu refuser son visa par le Pentagone en 2005. De l'histoire ancienne, aujourd'hui dans la peau du premier ministre indien qui achète à tout va, l'Occident ouvre grand ses portes, Narendra Modi est accueilli avec les honneurs à Washington, promenade privilégiée sur la Seine en bateau-mouche avec François Hollande, business is business, 36 rafales comme ça de la main à la main, et puis aussi la décision de relancer le projet de la centrale nucléaire dans l'état du Maharashtra avec 6 réacteurs, et ça, franchement, c'était pas vraiment prévu parce que les députés locaux sont montés au créneau en disant que la promesse du candidat Modi que cette centrale controversée ne serait jamais construite et donc annulée, les députés ont décidé de poursuivre le combat au nom de la démocratie et du respect des engagements. Donc, ce succès auprès de la communauté internationale et ses problèmes en interne, une auteure indienne l'analyse pour nous, elle s'appelle Sumona Sinha et elle livre les teneurs de ce double discours.
C'est le discours de ce parti, c'est l'idéologie, c'est l'islamophobie, c'est la haine raciale. Ce parti-là, tout ce qu'il a fait avec BJP, avec Shiv Sena, c'est avoir un discours islamophobe, instiguer la haine raciale, depuis toujours. Et deuxièmement, depuis le temps, il n'a pas changé de discours. Le Modi, quand il va dans les zones rurales, campagnardes, comment il va? Il porte, il s'habille comme un soldat tribal, d'autrefois, d'antiquité, mais prend un sabre à la main. Il prend un bouclier, il met comme couronne sur la tête là, un vautour sur sa tête. Et d'autre côté, quand il va dans les grandes villes, quand il s'adresse à l'intelligence indienne, et à ce moment-là, il est technocrate, il est là pour le progrès économique, il est là pour une meilleure technologie scientifique. Quand il vient en France, quand il va aux États-Unis, eh bien, partout ailleurs, il a ce discours-là, poli. L'Inde, c'est une société de grosse consommation, en train de se réveiller comme la Chine, donc tout est bon. Pour vendre à ces sociétés gargantua qui est prête à tout avaler, tout dévorer, tout ce qui nous intéresse. Donc, vous voyez, alors lui, quand il vient en France, aux États-Unis, ça, tout ce qui nous intéresse, c'est le fait de la commerce avec l'Inde aujourd'hui. Et on oublie malheureusement que ce type, il avait instigé les modes communautaristes en 2002. À Gujarat, quand il était chef dans cette région-là, il avait instigé l'émeute presque génocide. On a utilisé le terme génocide dans les tribunaux américains. On a utilisé le terme génocide. Il avait instigé l'assassinat des 1200 musulmans à Gujarat, dans la région de Gujarat, en Inde. En 2005, Narendra Modi s'est vu refuser d'obtenir le visa pour les États-Unis. Et aujourd'hui, il y va. Il vient en France. Bateau mouche, on regarde le ciel. Il suffit de acheter des rafales. Donc, ces gens-là gardent un double discours, arrivent à garder un double discours du progrès économique, de science. Ils nomment un ministre de yoga. Ça, c'est fantastique. Qu'est-ce que c'est? Ils vont prouver devant le monde occidental qui a aujourd'hui la peur d'un certain islam, qui a peur de fanatisme islamiste terroriste. Lui, il arrive comme un barrage. Il se présente comme un barrage et lui, il vient avec quoi? Il vient avec son fanatisme hindouiste. C'est là. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne, j'ai l'impression.
L'homme peut-il changer?
Les êtres humains comme lui, qui a un passé récent, les modes communautaristes, l'assassinat, si vous voulez, le génocide à l'encontre des musulmans de Gujarat, ça a eu lieu en 2002. Et aujourd'hui encore, il tient le même discours. Sa politique, il n'a pas changé. Il a changé juste la couverture. L'enveloppe a changé. Donc aujourd'hui, il ne va pas instiguer, en tant que premier chef d'État de l'Inde, instiguer une émeute communautariste. Ça, il ne peut pas faire, on est bien d'accord. Mais il nomme un ministre de yoga. Ministre de yoga, c'est quoi? C'est comme ramener l'Inde à l'époque pré-coloniale, pré-musulmane. Vous voyez, donc c'est l'Inde védique. L'Inde védique, c'est comme l'Inde hindouiste. Donc tout ce qu'il a fait, le ministre de yoga qui va promouvoir Ayurveda, entre guillemets, c'est juste ça, savoir à quel point c'est incroyablement encore ancré dans sa politique de fondamentaliste hindouiste, parce que c'est pas une culture ni contemporaine, ni laïque, ni séculaire, rien du tout. C'est juste ramener l'Inde à l'époque védique, l'époque d'antiquité, avec une formule, avec une couverture, avec une présentation ultramoderne.
Shumona Sinan, Narendra Modi n'est donc pas opposé à la mise en place d'un régime fort. Il le rêve, il veut évidemment éliminer tous les obstacles qui se mettent en travers de sa route. Il ne manque pas une occasion de réduire au silence les voix discordantes, notamment les journalistes. Avec 11,6 millions de followers sur Twitter, il pense contourner le quatrième pouvoir, mais ce n'est pas le cas, car il y a encore une opposition politique qui subsiste et qui prend même de l'ampleur.
Éric Valmire, merci.
Un jour dans le monde, sur France Inter.
Et direction la Sicile, à une heure de Catane, dans le centre Mineo qui accueille les migrants. Sandy Dauphin y a rencontré Mamadou Diallo. Écoutez le témoignage de ce jeune homme de 17 ans, venu de Guinée-Conakry, ayant survécu au passage par la Méditerranée. Il parle un français impeccable, malgré les risques et le danger. Il a encore des rêves, de l'espoir et des envies.
Je suis arrivé le vendredi passé, par la mer, entre la vie et la mort, parce qu'on a fait 5 jours dans la mer. Bon, on s'est perdu en fait, quoi. Mais le bon Dieu nous a sauvés en fait.
Vous étiez nombreux sur cette embarcation, ça ressemblait à quoi le bateau?
Bon, c'est les bateaux en caoutchouc en fait. Et peut-être 120 personnes, 130 personnes par pirogue.
Quand vous avez vu le bateau, vous vous êtes dit quoi?
Non, on ne nous montre pas, on nous ment hein, en fait. On ne te dit pas la réalité, quoi, en fait. Bon, par exemple, quand tu es à Libye, on t'attrape, on te met en prison. Il te demande pourquoi tu es venu à Libye. Parce que la plupart des gens qui viennent à Libye, c'est pour travailler, quoi. Leur monnaie sont lourdes, il y a de l'argent. Et ils ne travaillent pas. Donc, par exemple, aujourd'hui, tu es avec un ami. Le lendemain, tu apprends qu'on a déjà tué ton ami. Tu te dis, bon, il faut que tu te chauffes maintenant. Bon, tu ne peux pas retourner par arrière parce que le pays est divisé. Il faut que tu fonces devant. Presque 2 mois, 10 jours, on est enfermé dans une maison pour attendre le jour J. Une fois, au moins une fois par jour. À l'intérieur, tu ne peux pas téléphoner ta famille, rien. Tu ne peux pas, ça veut dire faire marche arrière, quoi. Il faut que tu fonces sur la mer. Et puis, dès que tu dis que tu vas te retourner, ils vont te fusillader, en fait.
Est-ce que vous saviez que c'était aussi dangereux, ce voyage, cette traversée vers l'Europe?
Non, en fait, personne ne peut te dire la réalité de ça. C'est que ce que tu apprends dans le pays et ce que tu vas aller voir, c'est complètement différent, quoi, en fait.
Donc, le danger sur la mer, vous n'y aviez pas pensé?
Oui, bon, on n'avait pas pensé, hein, parce qu'ils nous disaient que ce n'était pas loin. Il y a juste 15 kilos, il y a certains qui le disent. Mais moi, je le savais, c'était loin. Mais j'ai pensé que c'est des grands bateaux, quoi, en fait. Mais ils nous ont donné quelque chose de 5 kilos de dattes pour manger. Et pourtant, on a fait 5 jours. Et c'est 5 kilos de dattes qui a fait jusqu'à les gens ont bagarré, que le truc s'est percé. Parce qu'il s'est percé en pleine mer. Quelque temps après, on a appelé. On nous a donné un numéro vert, je ne sais pas, un numéro vert, un truc comme ça là. On appelait ce numéro, soi-disant, il n'arrive pas à nous repérer dans la mer. Et le téléphone était déchargé, il y a entre un Sénégalais et un, je pense, Nigérien qui ont discuté, ils ont jeté le téléphone dans l'eau. Donc tout le monde maintenant était fâché pour ça, on dit qu'on va mourir. Après, ils se sont commencé de bagarrer entre eux. En fait, à la fin, on a pu calmer la situation. On est resté dans la mer, resté longtemps, 5 jours. Après, on a vu un grand bateau, on s'est dirigé vers le grand bateau. Il y avait l'eau qui rentrait. On était en train de puiser, faire sortir l'eau pour ne pas que l'eau arrive à remplir le truc, quoi. Dieu nous a sauvés, en fait. Parce que ce qui cause les accidents de plus, c'est la malentente entre les passagers, quoi. Ou bien entre musulmans et chrétiens.
Il y a eu des problèmes entre musulmans et chrétiens avant?
Oui, il y a eu des problèmes entre musulmans et chrétiens. Il y avait certains entre nous qui voulaient ouvrir le Coran et lire. Je suis musulman, mais...
Vous, vous avez dit non?
Non, on a dit non. Parce que le bon Dieu, il n'accepte pas que c'est quand seulement tu es conseillé, tu le demandes, quoi.
Il y a eu des morts?
Oui, il y a eu 2 morts. Parce que quand on voit le grand bateau, pour l'embarcation, c'est très difficile. Il faut que tu fasses un peu la force, quoi, en fait. Donc quand le grand bateau vient, il lance juste un corde. Si tu n'as pas le gilet, tu tombes dans l'eau. Et dès que tu tombes dans l'eau, les gens même qui viennent sauver, ils ne vont pas voir les gens qui sont dans l'eau.
Donc il y a 2 personnes qui sont mortes au moment où vous avez été sauvés.
Oui, 2 personnes.
L'Europe et l'immigration, qu'est-ce que vous en pensez en ce moment, l'attitude de l'Europe face aux migrants?
Bon, ce que je pense, tout ça c'est parce qu'il n'y a pas de stabilité en Libye. Hein, parce que bien avant Kadhafi, il n'y avait pas ces choses-là, en fait. Il y avait de l'immigration vers l'Europe, mais ce n'était pas si nombreux. En Libye, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de sécurité.
Dernière question, votre avenir, quel est votre objectif?
Mon rêve, c'est de continuer mes études. Hein. J'aimerais partir en France pour continuer mes études, mais pour le moment, je ne sais pas la procédure pour aller là-bas, quoi.
Vous attendez, vous restez ici un peu, vous reposez, vous allez voir.
En fait, je suis bien reposé maintenant, hein. 5 jours, 6 jours, ça me suffit maintenant. Il y a beaucoup de manger, ça quand même, on mange bien, mais c'est pas assez qu'on souhaite en Europe. C'est pas de manger et dormir. Hein.
Vous avez un plan pour partir d'ici?
Non, j'ai pas un plan. Je suis pas prêt, hein. J'aime pas maintenant risquer pour la deuxième fois. J'ai risqué la mer, j'aimerais pas risquer, on me fait retourner. Parce que quand on me fait retourner, c'est que je suis foutu, quoi.
Incroyable témoignage, Mamadou Diallo, 17 ans, migrant, au micro donc de Sandy Dauphin. Et c'est l'édito d'Anthony Bélanger. Bonsoir.
Bonsoir, Nicolas. Bonsoir à tous.
Aujourd'hui, c'est la situation de Serge Atlaoui qui risque d'être exécuté en Indonésie qui vous préoccupe, Anthony.
Oui, et pour plusieurs raisons. La première, pour tout vous dire, est strictement personnelle. Je pense, j'ai toujours pensé que la peine de mort était un barbare et que tout pays civilisé s'honore à l'abolir. C'est d'ailleurs le sens de l'histoire. La moitié des pays du monde l'ont déjà supprimé. Il y a 99 pays qui l'ont supprimé au compteur. Le dernier était Fidji. C'était en février dernier. La seconde raison de mon inquiétude, eh bien, c'est l'Indonésie elle-même. Personne ici ne sait rien ou presque de ce pays, quatre fois plus grand et quatre fois plus peuplé que la France, ce qui en fait avec 250 millions le premier pays musulman au monde. Mais ce qui m'inquiète, ce n'est pas l'islam. Celui pratiqué en Indonésie est l'un des plus tolérants qui soit. Il est quiétiste, comme on dit, c'est-à-dire modéré, et très loin du djihadisme radical. Même si cette tendance existe, bien sûr, elle est très très minoritaire. Non, ce qui est inquiétant, c'est plutôt que l'Indonésie est un pays humilié, humilié par la colonisation néerlandaise, humilié par 30 ans de dictature Suharto soutenue par les États-Unis, humilié aussi par une forme de légèreté, voire de mépris occidental.
Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, Anthony ?
On va prendre un exemple. Par exemple, l'Australie, vous savez, qui est le voisin riche de l'Indonésie, des milliers d'Indonésiens tentent chaque année d'émigrer là-bas, un peu à la façon des Africains, hein, qui, on vient d'entendre, qui traversent la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. La réponse de l'Australie est extrêmement dure. Tous les bateaux sont interceptés, les candidats à l'immigration arrêtés et surtout parqués sur des îles du Pacifique loin des rives australiennes, d'où ce sentiment d'humiliation très fort à Jakarta. Deuxième élément inquiétant, l'attitude du nouveau président Widodo, dit Jokowi. On a tous fait une grosse erreur d'interprétation. Pour tout vous dire, lorsqu'il a remporté les élections présidentielles, c'était en juillet 2014, on a pensé que c'était un modéré, un ami de l'Occident. Cette réputation d'ami de l'étranger, eh bien, a failli lui faire perdre la présidence. Il n'a été élu qu'avec 53% des suffrages, alors qu'il partait avec des sondages à 60 voire 65%, la leçon a été retenue par lui 5 sur 5.
Et vous voulez dire du coup, Anthony, qu'il s'est durci?
Exactement, il a dû durcir le ton pour contrecarrer ses soupçons de modération, notamment religieuse. La conséquence est dramatique, alors qu'il n'y avait eu aucune exécution en 2014, 6 condamnés indonésiens ont été fusillés en janvier 2015. La question est donc, osera-t-il aller plus loin, c'est-à-dire aller jusqu'à l'exécution des étrangers qui attendent dans le couloir de la mort. Il faut savoir qu'en plus de M. Atlaoui, deux Australiens, trois Nigérians, un Ghanéen, un Brésilien et une Philippine sont concernés. Et vous voulez savoir le plus terrible ? Eh bien, c'est que des Indonésiens seront probablement fusillés avant les étrangers, pour l'exemple. Autrement dit, leurs exécutions pourraient, eh bien, laisser une porte de sortie absolument terrifiante au président Widodo pour gracier les étrangers.
Anthony Bélanger, merci. Et Pierre Veil, bonsoir.
Bonsoir Nicolas Demorand.
Le téléphone sonne à 19h20. Sur quoi ce soir?
Un sujet que vous avez longuement évoqué ce soir et aussi mardi, le drame des migrants en Méditerranée. Que faire face à cette crise humanitaire? On recevra Bernard Kouchner qui connaît bien ce sujet. Et vos questions au 01 45 24 7000 sur Twitter, le hashtag Telson et puis le site de l'émission franceinter.fr.
Merci Pierre. À tout à l'heure, le journal dans 30 secondes.